Radio Éthique vous présente les chroniques potagères de Rodolphe Grolesia, auteur de l'ouvrage Le potager anti-crise. Rodolphe, en ce début d'automne, est-ce qu'on peut faire un bilan de cet été et dire qu'il y a eu des gros problèmes de sécheresse ?
On peut commencer à faire les bilans. De toute façon, le jardinier se projette dans l'avenir en étudiant le passé. Et les problèmes de sécheresse, nous, dans le nord de la France, on les a connus à partir du mois de février, on va dire. Il pleut souvent chez moi, mais pas beaucoup. D'habitude, il tombe à peu près 700 mm d'eau. Et l'année dernière, l'année 2010, c'était déjà déficitaire. On a eu à peu près 670-680 mm d'eau. Donc on partait sur une base déjà assez aride, on va dire. Et puis, notre problème, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une manifestation du dérèglement climatique, mais ça serait intéressant de voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais dans le nord de la France, ça fait 3 printemps de suite que nous avons d'extrêmement sec. D'habitude, ça dure 2 mois et demi, et c'est plutôt avril-mai qui sont secs. Cette année, donc, ça a commencé au mois de février, et ça a duré février, mars, avril, mai, et c'est seulement en juin qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais en juin, il a fait très chaud, et donc toute l'eau qui tombait repartait immédiatement dans l'air avec l'évapotranspiration. Ça s'est conjugué aussi chez moi avec un temps qui n'était ensoleillé, mais pas très chaud, et avec beaucoup de vent. Et vous le savez, Evelyne, le vent pour un jardinier, c'est terrible. Ça couche les plantes, et puis surtout, ça fait baisser la température, et ça assèche l'air et les sols. J'ai pas d'études à proprement parler, mais je pense que ça active fortement la déshydratation des sols.
Alors, ça vous a obligé à arroser de façon manuelle ?
Alors, je vais y venir, parce que, en fait, nous ne sommes pas spécialement habitués à ces choses-là, à des sécheresses. C'est incroyable, sécheresse en Picardie maritime. Et normalement, on a vraiment pas de problème d'eau. Et du coup, à part ceux qui vivent dans des vieilles fermes, et les anciens étaient très précautionneux, donc dans les vieilles fermes, on trouve encore des cuves, des grosses cuves de 10 000, 50 000 litres. Mais nous, les jardiniers d'aujourd'hui, avec des maisons d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits récupérateurs d'eau qui font quelques centaines de litres. Et si on se lance dans l'arrosage, eh ben, au bout de quelques semaines, allez, un mois et demi pour ceux qui ont les plus grosses réserves, on n'a plus une goutte d'eau. Et quand on a commencé à habituer une plante à un arrosage assez régulier, eh ben, le jour où on cesse de l'arroser, c'est la catastrophe. Elle souffre terriblement, même souvent elle périclite, c'est terminé, on n'en parle plus. Son stade végétatif se bloque complètement, puis après elle disparaît. Dans les jardins bio, on aurait tendance à arroser qu'avec de l'eau de pluie, et pas de l'eau du robinet, on va pas utiliser l'eau du réseau pour l'arrosage. Et un des premiers enseignements de cette période de sécheresse qui a duré quelques mois, c'est qu'on peut avoir tous les systèmes de récupération d'eau de pluie qu'on veut. C'est une banalité que je vais dire, mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on n'en est pas conscient. S'il pleut pas, on n'a pas d'eau.
Est-ce que le fait de couvrir le sol, ça a facilité quand même, voyez, moins d'évaporation, mais s'il n'y a pas d'eau, le sol il est sec, même protégé.
Alors moi, j'ai la chance d'avoir un sol argilo-limoneux qui a tendance à bien garder l'humidité. Il était paillé, il est non retourné depuis un moment, dans sa plus grande partie. Et puis comme je m'attache à suivre les prévisions saisonnières, ça faisait un moment qu'on nous prévenait, depuis avant Noël, on nous prévenait que le nord de la France avait de fortes probabilités d'avoir une période très sèche. Donc j'avais pris beaucoup de précautions. Et effectivement, ces manières de faire ont permis de limiter la casse jusqu'au mois de fin avril, mi-avril, fin avril. Mais ça a aussi montré assez rapidement les limites, c'est que ça n'est pas la panacée. Ça permet de passer une courte période de sécheresse, mais pas une longue comme on a connu. Très très vite, ça s'assèche en dessous et il est plus possible de cultiver. Et puis, il y a un inconvénient, c'est que pendant notre période de sécheresse, parfois, il a plu quelques millimètres. Et en fait, le paillis, c'était un obstacle à l'humidification du sol. Il aurait fallu pouvoir le retirer et le remettre ensuite, après la pluie. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement disponible et voir guetter les prévisions d'averse. Et s'il risque de pleuvoir la nuit, veiller toute la nuit, enlever le paillis, attendre qu'il pleuve. C'est pas possible, c'est pas gérable. En plus, nous, les jardiniers un peu d'aujourd'hui, on va dire qu'on a aussi autre chose à faire que de guetter la pluie tout le temps. Oui. En fait, c'est toujours pareil, il n'y a pas de solution miracle. Par exemple, le paillis, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tout le temps. Et par moments, c'est plutôt une contrainte qu'un atout, même pour l'arrosage. Les conclusions, il y en a une, c'est que les semis spontanés ont très bien fonctionné. Moi, je fais mes graines, je les protège pour éviter les hybridations. Puis lorsqu'elles sont prêtes, je récolte ma part. Et jusqu'à présent, je laissais une part pour les oiseaux. Et ben, depuis la sécheresse, je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Il n'y a pas deux parts, mais trois parts. Il y en a une pour le jardinier, Il y en a une pour les oiseaux. Et puis, il y a la part qui va aller dans le jardin et qui, au printemps, va faire de chouettes légumes. Tous les semis que j'ai fait à la main et que j'ai arrosé un minimum ont végété, n'ont pas poussé, n'ont rien donné ou ont attendu 2, 3 mois avant de vraiment lever. Eh ben, les semis spontanés ont très, très bien fonctionné. Deuxième enseignement important, moi, j'ai fait un potager de survie où j'ai mis l'essentiel. J'avais plein de graines à semer. Eh ben, je les ai gardées pour l'année prochaine et je me suis contenté de rangs de radis, carottes, choux, laitues, pas très loin de la salle de bain. Parce que vous savez, Evelyne, moi, j'hésite pas à arroser avec l'eau du bain des enfants. Et donc, j'avais juste à siphonner les baignoires pour pouvoir arroser ces espaces-là qui étaient tout près. Le dernier enseignement, et je crois que c'est le plus important, j'ai eu une discussion la semaine dernière avec un jardinier et on est tombé relativement d'accord, à savoir que ce soit les semenciers ou que ce soit nous, les jardiniers, lorsque nous faisons nos graines, nous avons tendance à bichonner nos plantes porte-graines. On va les protéger du vent pour pas qu'elles versent. On va les protéger du trop soleil pour pas qu'elles grillent. On va les protéger de la pluie pour pas que les graines fondent. On va les arroser comme il faut pour qu'elles poussent bien, etc. On était relativement d'accord avec ce jardinier sur le fait que, en fait, à force d'être aux petits soins pour nos porte-graines, eh ben, sélection après sélection, ils nous produisent des grosses paresseuses, des graines grosses paresseuses qui ont besoin qu'on soit aux petits soins pour elles, pour donner de beaux légumes. Et la sécheresse, c'est pas les petits soins, c'est le contraire. Et donc l'idée que je vais essayer de développer dans les années à venir, c'est d'être un peu plus allez, sadique avec mes porte-graines pour qu'ils soient aguerris à la sécheresse, au vent, etc. Et pour que génération après génération, les graines de ces porte-graines me fournissent des plantes qui vont pas attendre passivement que je m'occupe d'elles, mais qui, d'une manière active, vont aller chercher en profondeur, vont développer des grosses racines longues pour aller très loin, chercher l'eau dont elles ont besoin pour se développer. J'ai l'impression que c'est ça le principal enseignement de la sécheresse de printemps dans mon petit potager.
Vous venez d'écouter les chroniques potagères de Rodolphe Grolésia. Pour les réécouter, rendez-vous sur www.radioéthique.com.